Le débat du jour.
Anne Souhaitemont.
Bonsoir, ravie de vous retrouver à la une du débat de ce soir, le Parti Socialiste Français. Le PS organise ce week-end, depuis ce matin, un référendum qui se terminera dimanche avec une question. Face à la droite et à l'extrême droite, souhaitez-vous l'unité de la gauche et des écologistes aux élections régionales qui se passent dans un petit peu moins de 2 mois? L'initiateur de ce vote, c'est Jean-Christophe Cambadélis, numéro 1 du parti. Il a eu l'idée de cette consultation après la décision des militants écologistes du Nord-Pas-de-Calais de s'allier au premier tour avec le parti de gauche contre le Parti Socialiste, alors que la région pourrait tomber dans l'escarcelle du Front National. Un référendum critiqué et qui pointe du doigt, selon nombre de ses détracteurs, une incapacité du parti à se faire entendre. Alors le Parti Socialiste sait-il encore parler aux électeurs de gauche? C'est le débat de ce soir. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir 2 invités. Marie-Noëlle Lienemann, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sénatrice et puis membre du bureau national du Parti Socialiste. Henri Rey, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directeur de recherche au CEVIPOF, le centre de recherche politique de Sciences Po, auteur par ailleurs d'une publication qu'on peut consulter en ligne sur le site du CEVIPOF, Sociologie des adhérents socialistes. Vous avez beaucoup de choses à nous raconter.
Face à la droitisation de la droite et la banalisation de l'extrême droite, et d'autre part la fragmentation de la gauche, il est temps d'en appeler au peuple de gauche pour qu'il se prononce clairement pour l'unité.
Voilà les mots de Jean-Christophe Cambadélis, le numéro 1 donc du Parti Socialiste, il y a quelques jours, au siège du PS à Paris. Marie-Noëlle Lienemann, est-ce que ce référendum est une bonne idée?
C'était en tout cas utile de faire quelque chose après la décision de nos amis écologistes et du Front de Gauche de ne pas faire l'alliance dans la région Nord-Pas-de-Calais en particulier ou en PACA, où manifestement, si la gauche était unie, comme elle a géré de façon assez unie la région, elle était en situation de changer la donne, notamment par rapport au score attendu du Front National. Et que au regard de ces risques-là, au regard aussi des risques d'abstention, des difficultés au deuxième tour de se rassembler, de mettre la droite en situation d'être peut-être en 1 le FN, en 2 la droite et reléguer la gauche, je pense qu'il était utile de faire quelque chose.
Maintenant, faire un référendum,
moi je suis convaincue que l'unité, et ça se construit dans la longue durée, que c'est un cap stratégique. Ça ne peut pas être un moment tactique où on convoque l'unité quand on n'a rien fait pour la faire vivre avant. Bon, en même temps, une fois que vous êtes devant un problème, il faut essayer de réagir. Donc, il n'est pas néfaste, ce référendum, mais je crains qu'il ne règle pas nos problèmes. Et peut-être la seule vertu que je lui vois, c'est que d'une certaine façon, il va peut-être remobiliser une partie de nos abstentionnistes qui, voyant qu'il y a péril, se disent, bon, ben, peut-être quand même on va aller voter au régional et mobiliser notre campagne.
Alors, n'allons pas trop vite, n'abordons pas trop de choses en même temps. Henri Rey, votre réaction, vous qui connaissez si bien l'électorat socialiste, les militants, est-ce que convoquer l'unité, comme vient de le dire Marie-Noëlle Lienemann, c'est une bonne idée?
Ah, certainement, le terme d'unité, c'est un mot magique pour les militants de gauche. Hein. Ça a toujours été quelque chose qui a compté énormément aux grandes heures du programme commun, même pour la gauche plurielle, hein, du temps de Lionel Jospin.
Et
le Front populaire avant, bien sûr.
Oui, mais par rapport aux fascistes,
il y a là, en effet, la notion même d'unité est très centrale dans l'histoire de la gauche.
C'est un marqueur du socialisme,
oui,
aussi.
Oui, du socialisme et de la gauche en général, parce que évidemment cela a joué beaucoup dans toutes ces époques que nous avons appelées. Mais aujourd'hui, quand même, peut-être que là il y a un fossé qui est considérable entre avancer ce terme et la situation que l'on observe, c'est-à-dire la situation d'une grande cassure entre les gauches. Aujourd'hui, c'est difficile de parler de la gauche, parce que pas simplement en termes d'organisation, mais nos enquêtes le montrent. Hein, toutes les enquêtes d'opinion un peu fouillées le montrent. Il y a bien plusieurs gauches. Il y a une gauche de gauche, en quelque sorte, comme disait Pierre Bourdieu, mais ça devient véritablement quelque chose d'important.
Et le PS qui ne serait pas...
Mais le PS lui-même, il n'est pas... Le PS lui-même qui hésite sur son orientation et qui est lui-même divisé. On le voit dans l'illisibilité de certaines politiques gouvernementales, on le voit dans les déclarations contradictoires des dirigeants, on le voit dans les figures qui sont différentes, et on voit bien que d'un côté, on a une gauche plus radicale, sans l'être extrêmement, oui. mais qui se cherche et qui n'a pas beaucoup elle-même aujourd'hui de cohésion. Et d'un autre côté, on a un parti socialiste qui est en quelque sorte fragmenté entre une option qui est en effet une option qu'on peut comprendre, d'un pragmatisme, d'un social-libéralisme en quelque sorte, qui se tente, et en même temps toute la réticence d'une autre partie, du Parti Socialiste. Donc parler d'unité dans ce paysage, alors même qu'en termes d'organisation, les écologistes eux-mêmes sont profondément divisés et viennent de connaître une scission, alors que à l'intérieur même du front de gauche, l'autre gauche,
oui,
il
là
y a
aussi,
cette division entre le Parti de gauche
oui, on sait
et
qu'ils
le Parti
se sont
communiste.
Entre
donc
deux
voyez,
personnalités,
là
oui.
parler d'unité, c'est ressusciter un mythe, mais dans des conditions qui sont particulièrement difficiles.
Et puis Marie-Noëlle Lienemann, vous disiez donc convoquer l'unité, restons sur cette expression, et en même temps certains craignent que ce vote n'attise les divisions. Est-ce que vous faites partie de ceux qui ont cette crainte ?
Évidemment, c'est pour ça que je pense qu'il faut quand même essayer de convaincre que sur le là où on a été quand même capable de diriger les régions, c'est quand même des élections régionales, et qu'il faut savoir faire la part des choses, et qu'il y a quand même des périls graves. Je pense qu'il faut quand même pousser à l'unité et combattre la fragmentation. Simplement, moi je le dis depuis le début de ce quinquennat, il y a un péché originel de la gestion par François Hollande de la non-unité dans son quinquennat. C'est la première fois dans la Ve République que quand un nouveau président arrive, il ne fait pas l'unité des forces qui l'ont permis d'être élu.
Au départ, les Verts étaient dans le gouvernement,
oui, mais
par
attendez,
exemple.
30
ils font
secondes.
Partie de cette gauche.
Déjà, la manière dont il fait au sein du PS, il fait comme si Martine Aubry n'existait pas. Il ne fait aucun effort au début. Martine a été absolument d'une loyauté
maire
totale.
Maire de Lille, ancienne ministre.
Et il y a un nouveau gouvernement. Je ne dis pas qu'il fallait l'appeler Premier ministre, mais au moins discuter, donner le sentiment qu'avec celles et ceux qui l'avaient soutenu, il y avait quelque chose qui se faisait en commun. Ils ont été éliminés, à la marge. Tous ceux qui n'avaient pas voté aux primaires pour François Hollande. Il n'y en a eu que quelques-uns de pris. Pas de dialogue au sein de son parti. Les Verts, il dit, oh là là, je suis obligé de subir l'accord que Martine Aubry a signé en tant que parti socialiste avec Europe Écologie Les Verts. Et chaque
lorsqu'elle
fois,
était première secrétaire, voilà, soyons clairs, qu'elle était précédée Jean-Christophe.
Et qu'elle était donc la personne qui a préparé le programme, donc des accords avec nos partenaires. Et on sent un François Hollande qui dit, je les prends, mais une large partie de ce qui a été signé, je le crois pas vraiment. Et les communistes, les électeurs de Jean-Luc Mélenchon, qui représentait quand même plus de 10%, à peu près autour de 10% des électeurs, pas un message. Si ce n'est que quand l'Assemblée est élue avec une majorité absolue de socialistes, il dit « Ouf, je suis pas obligé de prendre des communistes ». Alors je ne dis pas qu'il fallait en mettre au gouvernement, j'en sais rien, mais au moins qu'il y ait des discussions sur les grandes réformes qu'on pouvait porter dans l'unité des forces de gauche. Sans compter qu'il avait oublié une autre chose, et je termine, c'est que quand on vous fait des enquêtes d'opinion, il y a un petit tiers des électeurs de François Hollande au premier tour de la présidentielle qui ont hésité entre François Hollande et Jean-Luc Mélenchon. Ça veut dire que ces électeurs-là, ils ont quand même une préoccupation d'une gauche qui s'affirme sans trop de mollesse et sans trop de honte. Voilà. Et il commence son quinquennat, moi, François Hollande, élu par le peuple français, j'en ai rien à cirer des soutiens qui m'ont permis d'être élu, à part mes fidèles des fidèles.
Alors,
eh ben, il ne faut pas s'étonner qu'on soit dans cet état aujourd'hui.
Donc, Marie-Noëlle Lienemann nous explique que François Hollande n'a pas su faire l'unité dans les gens qu'il a choisis autour de lui. Après, il y a aussi la question de la politique qui a été mise
bien
en
sûr.
Place. Certains disent
c'est
elle
bien.
N'est pas assez de gauche, elle n'est pas assez socialiste. Henri Rey, est-ce que cette politique mise en place ne correspond pas à la sociologie des électeurs de gauche ? Est-ce qu'ils se sentent une politique pas assez à gauche ? C'est pour ça qu'ils s'en désintéressent ?
C'est pas seulement par correspondance oui. avec la sociologie, parce qu'en fait, les électeurs même de la gauche émargent à diverses catégories sociales, bon, aux couches moyennes, mais aussi, vous l'avez, enfin Marie-Noëlle Lienemann le rappelait à juste titre, ces flux qui ont existé pendant toute la campagne présidentielle 2012, entre ceux qui hésitaient à voter Mélenchon et ceux qui hésitaient à voter Hollande au premier tour de cette élection. Donc il y avait une circulation entre ces électorats et l'électorat de Jean-Luc Mélenchon n'était pas plus populaire, pas beaucoup plus populaire que celui de François Hollande. Donc c'est pas la sociologie même de ces électorats qui peut expliquer en quelque sorte le gap qui se manifeste
c'est
aujourd'hui.
C'est plus sur l'idéologie.
Mais c'est aussi sur les mesures concrètes, la politique lisible. C'est le fait de parvenir aussi aux objectifs affichés. L'objectif affiché est de réduire le chômage, il augmente. Donc enfin, vous voyez, c'est facile de dire cela, mais en même temps, on voit bien qu'il n'y a pas ce sentiment qui est très important aujourd'hui de défiance à l'égard de l'ensemble du monde politique, de l'ensemble des représentants, qui n'a jamais été aussi élevé en France et qui n'a jamais, en Europe, été aussi élevé qu'en France à l'égard de ces... Eh bien, il se nourrit quand même du fait que on n'a pas vu ces pas mal de promesses se réaliser, par exemple. Donc, le vote des immigrés non européens aux élections locales qu'on entend depuis 81, bon, qui est un marqueur, parce que où sont les réserves abstentionnistes de l'électorat de gauche aujourd'hui? Elles sont beaucoup dans ces quartiers qui ont beaucoup voté d'abord Ségolène Royal, puis ensuite François Hollande. Or, en direction de ces quartiers, il n'y a pas de message fort qui soit passé. La politique de la ville a continué, etc. Mais il n'y a pas de message aussi fort que ceux qui avaient pu être adressés en temps électoral.
Donc pas d'efficacité, pas toutes les promesses tenues. Et puis est-ce qu'il n'y a pas aussi eu...
C'est plus grave que ça.
Oui,
je pense que c'est pas seulement le fait que toutes les promesses ne soient pas tenues. C'est que le cap stratégique que ces promesses déclinaient n'a pas été tenu. En clair, quand vous prenez le discours du Bourget... C'est grosso modo, c'est pas...
Donc, discours de campagne de François Hollande, pendant lequel il dit, mon ennemi, c'est la finance.
Mais c'est pas la révolution. Qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit, la finance, l'économie réelle doit reprendre pied par rapport à la finance, donc il faut réguler les banques, il faut séparer mieux les activités bancaires, il faut mettre le paquet sur la réindustrialisation plutôt que sur le profit financier. Il vous tient un discours républicain social, si je puis dire, dans la filiation d'un Jean Jaurès, qui est la République...
Donc là, pour République, le coup, il tient un discours voilà, assez à gauche.
Avec, par ailleurs, la redistribution par la réforme fiscale. Il vous tient aussi un discours sur l'ordre républicain, c'est-à-dire on n'est pas non plus dans mai 68, etc. Donc vous avez une espèce d'équilibre politique qui n'est pas enthousiasmant comme 81 avait pu l'être, mais qui apparaît quand même une voie nouvelle pour sortir la France de cette espèce dérive libérale dans lequel on le sentait que... Et de suivisme, alors troisième sujet, le suivisme par rapport à l'Allemagne. Parce que je reste convaincue que la question européenne, la posture de la gauche aujourd'hui par rapport à l'Europe, la cassure qu'il y a dans une partie de la gauche par rapport à l'Europe, constitue un élément du décrochage. Le sentiment d'une impuissance du politique par rapport à l'Europe et de la trahison de nos élites par rapport au vote réitéré des Français, notamment l'histoire de la Constitution. Mais là, c'était je renégocierai le traité. Il n'a pas renégocié. Donc, il y a cela, mais je pense qu'on pourra en discuter. Il y a quand même une question plus structurelle pour la gauche française, qui est qu'elle ne s'est pas fixée comme objectif de reconquérir les couches ouvrières et les couches salariées.
C'est ce que j'allais vous demander, Marine Hollmann. Il y a une première analyse qui dit, en gros, le PS n'est pas assez à gauche. Il y en a une autre qui est portée par certains think tanks qui dit, le PS doit se centriser, je sais pas trop comment dire, pour récupérer des électeurs. Henri Rey, est-ce que ça vous semble être une bonne stratégie? On a beaucoup dit que, par exemple, le choix d'Emmanuel Macron, le choix d'abord de Manuel Valls comme Premier ministre, illustrait cette volonté pour le Parti Socialiste au pouvoir, pour François Hollande, de se centriser pour gagner des électeurs, en fait, non pas à gauche, mais à droite.
Oui, d'ailleurs, c'était présent dans la campagne présidentielle avec le fameux document Terra Nova dans lequel on expliquait
exactement.
Que les milieux populaires étaient devenus infréquentables et qu'il fallait s'adresser maintenant
affreux,
aux jeunes,
méchants,
modernes, etc. Et donc, par rapport à cette...
Infréquentable ou parti ailleurs?
Oui, mais de toute façon...
Par pertes et profits.
Partant ailleurs de façon quasi naturalisée, c'est-à-dire en disant qu'ils portaient eux-mêmes de la xénophobie, de l'homophobie, qu'ils étaient devenus réactionnaires,
qu'ils n'étaient pas progressistes.
Mais enfin, c'est vrai que cette question de la rupture entre la gauche et les classes populaires, c'est le talon d'Achille du Parti Socialiste. Parce que le Parti Socialiste, dans le cadre du système électoral français de la Ve République, il a des électorats de second tour. Mais au premier tour, il a une grande fragilité. Et il a cette grande fragilité parce que, en effet, son public de salariés, du public, justement, d'enseignants, auparavant, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en reste?
Beaucoup moins.
Beaucoup moins aujourd'hui. Ben, ce public ne suffit pas à lui donner une assise électorale suffisante. Et dans second tour, puisqu'il faut choisir au second tour, éliminer, donc à ce moment-là, il est capable, dans certaines circonstances, de rallier des majorités.
Donc ce que vous voulez dire, c'est que c'est un peu le PS par aveu d'échec, en se disant on a perdu les couches populaires qui sont parties soit à l'extrême gauche, soit au Front National.
Pas beaucoup à l'extrême gauche.
Se dit, oui. Il faut, oui,
à la limite, ce sera un nouveau rapport de force au sein de la gauche. Bon, moi, je suis pas forcément. Mais ce que je constate, c'est que c'est pas ça qui se passe.
Oui.
Il n'y a pas le vase communicant.
Non, c'est surtout dire, l'abstention.
C'est l'abstention voilà. Et une partie des couches ouvrières qui votent Le Pen.
Alors, ce qui est quand même intéressant, parlons de ces régionales qui arrivent dans deux mois. Juste un sondage pour donner une idée à nos auditeurs du rapport de force d'après les sondages à un moment T, loin du vote. Bon, les Républicains et leur allié centriste obtiendraient 31%. C'est un sondage qui date d'il y a 3 jours, d'Opinion One pour LCI et le journal Métro. Le Front National arriverait deuxième avec 28%, le Parti Socialiste à 23%, mais le total des gauches arriverait premier, un bloc de gauche qui arriverait en tête, 34%, derrière un bloc des droites à 33%. Donc stratégie d'unité, là on le voit, a priori payante.
Oui, si l'unité était possible, elle créerait une dynamique, parce qu'en plus de ça, c'est tout ça très statique. Vous n'avez pas la certitude aujourd'hui, quand vous faites le total des voix de gauche, le report au deuxième tour soit bon. Parce que effectivement, la logique de anti-Le Pen, anti-droite, à partir du moment où la différenciation entre une pratique politique gouvernementale de gauche et de droite apparaît pas d'une grande clarté sur le champ économico-social, et ben vous avez plein de gens qui, au deuxième tour, n'ont pas envie de cautionner ce qu'ils estiment être une mauvaise politique. Donc vous avez un risque de deuxième tour de déperdition de voix. Mais aussi, vous n'avez pas aujourd'hui la capacité, parce que, alors ça, moi, je pense que vous avez raison de dire qu'il y a des gauches. Honnêtement, c'est quand même depuis pas mal de temps qu'il y a des gauches. La question, c'est est-ce qu'il y a un projet qui est au moins au centre de gravité de ce que pourrait être le rassemblement de ces gauches.
Alors par exemple, quelles mesures seraient assez de gauche pour faire revenir cet électoral dans le giron du Parti Socialiste? Est-ce qu'il y a des marqueurs symboliques, des propositions qui pourraient faire revenir cet électorat?
C'est bien difficile, mais de toute façon, il faudrait que ce soit une préoccupation. Quand la préoccupation est un peu différente, quand on annonce, vous voyez, tout ce qui va d'ailleurs dans une certaine logique, avec le crédit impôt, compétitivité, les visites au MEDEF, avec l'idée que l'entreprise et le patronat sont si importants, etc. Et sans grand mot en direction des salariés, en direction des syndicats, etc. On est dans une posture qui ne favorise pas l'écoute et l'adhésion de ces catégories populaires. Vous avez bien vu que l'affaire Air France,
bien sûr,
au demeurant assez complexe, on a bien vu que cette affaire-là partageait complètement le gouvernement entre ces deux options possibles. Ou bien revenir à la gauche traditionnelle, ce qui paraît bien tard, ou bien s'orienter vers cette voie sociale-libérale. C'est pour ça que vraisemblablement, l'unité même du courant socialiste est fortement menacée aujourd'hui.
C'est-à-dire que vous pensez qu'on se dirige vers une fragmentation du Parti Socialiste, entre un parti qui va se diviser entre deux lignes. Il nous reste très peu de temps.
Toutes les institutions vont à l'encontre de ça. Toute la logique de second tour va à l'encontre de ça.
Sauf que le
PS est un parti d'élus qui vit et qui est quand même beaucoup ancré dans ses positions de pouvoir local et de moins en moins, bien sûr.
Au fur et à mesure des défaites, de moins en moins d'élus.
Mais la logique propre sur le plan politique, elle est plutôt dans ce sens. C'est-à-dire qu'il y a une clarification entre les deux gauches qui actuellement ont du mal à cohabiter.
Marie-Noëlle Lienemann, vous êtes au Parti Socialiste. Est-ce que vous sentez aussi, alors il nous reste quelques secondes, mais cette possibilité de ligne qui est de plus en plus claire?
C'est clair qu'il y a aujourd'hui la tentation par l'aile néolibérale d'éjecter tous ceux qui sont dans la filiation socialiste démocratique.
Donc plutôt qu'un fractionnement, une éjection.
Voilà,
en fait,
parce qu'ils pensent que in fine, ils garderont le sigle, le mot. Vous savez, c'est la logique du marché. J'ai gardé la marque, c'est l'important. Ben nous résisterons. Nous sommes un certain nombre de gens à penser qu'au contraire, quand vous voyez le débat aux États-Unis, regardez comment la gauche reprend du poil de la bête.
Dernier mot de Marie-Noëlle Lienemann et Henri Rey. Merci à vous et bonne suite de programme sur RFI.